Bonjour, je suis donc Patrick Barbé. Je suis un couteau suisse, donc ça va être super compliqué de me présenter. J'ai fait des sales, j'ai fait du recrutement, j'ai fait de l'IT, de la stratégie digitale. Voilà. Récemment encore, j'ai eu une activité sur, pendant 2 ans et demi sur, la, sur tout ce qui était stratégie social media pour un grand groupe de retail. Et je fais également de la formation, de l'accompagnement, enfin, beaucoup de choses.
Et là, tu vas nous parler d'usage des réseaux sociaux pour un freelance ou un consultant pour trouver des clients.
Oui, alors c'est important parce que maintenant, les consultants avant, souvent, trouvaient du business par leur réseau physique. Et maintenant, le réseau physique commence à se tarir et surtout, le business commence à se tarir. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va falloir qu'ils utilisent ce que les gens utilisent le plus actuellement, c'est-à-dire tout ce qui est les médias sociaux. Et comment utiliser les médias sociaux ? Eh bien, simplement en faisant montre de leur expertise au sein, au travers de ces médias sociaux.
Bah oui, parce que souvent, avant, tu demandais à tes amis, tu connais un expert dans tel domaine. Maintenant, les mecs, ils vont regarder sur Internet, ils vont voir ce qui sort et ils disent, ah, c'est ce gars-là que je veux.
Voilà, exactement. Ils vont aller sur LinkedIn ou sur Twitter, ils vont taper expert en performance commerciale et ils vont voir ressortir trois personnes, experts en vente, et ils vont voir ressortir Michael Aguilar, par exemple, et ils vont se dire, c'est lui que je veux. Il est impossible parce qu'il est super booké. Et à côté de ça, ben, le consultant dont c'est le métier et qui est performant également et qui est juste 3 fois moins cher, je plaisante bien sûr, mais enfin, qui est en tout cas plus abordable et surtout plus disponible, eh bien, il va falloir qu'il fasse preuve de son expertise pour se permettre d'apparaître dans les listes.
Alors, donc, comment il fait ?
Alors, comment il fait ? Alors déjà, il va falloir qu'il produise du contenu. Il va falloir être producteur de contenu parce que c'est le contenu, c'est le nerf de la guerre actuellement sur les médias sociaux et sur Internet en général. Donc, un contenu de qualité, un contenu qu'il va écrire. On peut déjà commencer par faire de la curation de contenu, donc rechercher des contenus intéressants et ensuite les partager avec sa communauté pour commencer à habituer de façon souple la communauté à ce que l'on leur donne des informations intéressantes, des liens, des infographies, du texte, des contenus, des vidéos même, les partager. Déjà, on va commencer à habituer la communauté à voir apparaître du contenu d'autre part. Et après, on verra sur quel contenu notre communauté réagit le mieux et sur quel contenu on a le plus de retours. Et sur ces contenus-là ou cette typologie de contenu, eh bien, le consultant va devoir les développer lui-même, va devoir développer ses propres textes, ses propres articles, ses propres infographies. L'idéal, c'est par exemple qu'il écrive un livre blanc sur son métier, qu'il le publie. Les livres blancs, ça marche toujours très bien. Qui commence à créer une mini chaîne YouTube. L'important, c'est le contenu et d'avoir un excellent son sur une chaîne YouTube. La vidéo, la qualité d'image, bon, je suis désolé de te le dire, je sais que tu es un professionnel du sujet, mais la qualité d'image peut être secondaire si on a un excellent son. Et ouais, le podcast.
Si le son n'est pas bon, forcément, voilà. Les gens vont en avoir marre,
ils vont en avoir marre. Le podcast, d'ailleurs, revient un petit peu en force sur le sujet, il peut aussi créer un podcast. Donc il faut vraiment qu'il crée du contenu à valeur ajoutée, du contenu qui prouve que lui est capable de le produire et qui va affirmer son expertise. Alors, grâce à un mix entre Twitter et Facebook, voire même entre un ou deux comptes Twitter et Facebook ou LinkedIn, parce qu'on peut aussi avoir une page Facebook ou un compte LinkedIn, il peut même avoir des petites modulations dans son expertise. Il peut être expert sur 2-3 sujets, les faire apparaître dans 2 ou 3 endroits.
D'accord. Alors, quelles sont les bonnes pratiques que tu recommanderais ? Par quoi on commence ? On commence par faire quoi ? Optimiser son profil LinkedIn ?
Alors,
on commence à devenir ses terrains d'expertise ? On fait comment ?
Oui, alors bien sûr, il faut optimiser son profil LinkedIn. C'est-à-dire LinkedIn vous donne une indication sur la qualité de votre profil. L'idéal, c'est d'arriver au moins au niveau expert, donc de remplir toutes les cases du profil LinkedIn, de se débrouiller pour avoir un résumé qui soit avec le maximum de mots-clés possible en tenant compte du fait que le résumé, ce n'est pas pour vous que vous l'écrivez, mais c'est pour vos clients potentiels. Donc, dans le résumé, il faut qu'il y ait tous les mots-clés que les clients vont utiliser pour vous trouver. Et également, un petit call to action. Si vous mettez dans le résumé un email ou un numéro de téléphone où on peut vous joindre, eh bien, on va vous joindre. S'il faut que la personne soit en contact avec vous sur LinkedIn, vous demande le contact, échange ensuite avec vous par message direct, ça va être un peu plus compliqué. Toujours mettre un petit call to action dans le résumé, l'intégralité des mots-clés. Alors, ce que je suggère pour voir quels mots-clés apparaissent le mieux, il existe des outils sur Internet qui permettent, à partir d'un texte, de définir un nuage de tags, un nuage de mots-clés. Ben, vous prenez votre résumé, vous le collez dans l'outil et vous voyez les mots qui ressortent. Si les mots qui ressortent correspondent aux mots que vos clients utilisent pour vous trouver, vous avez gagné. Si c'est d'autres mots, réécrivez votre résumé.
D'accord, alors c'est l'étape numéro 1. On optimise son profil LinkedIn. Ensuite, on va passer à la création de contenu et à la curation. Tu conseilles quoi en fait pour la curation? C'est simplement voir sa veille, ses newsletters? C'est quoi en fait?
Alors bah déjà, c'est utiliser Google Alert sur les mots-clés qui sont les mots-clés du métier pour avoir un maximum de remontées de Google Alert, qui est un outil exceptionnel et gratuit surtout, de curation de contenu, et voir arriver dans sa boîte mail la liste de tous les articles de presse, de blogs, de comptes Twitter, etc., qui parlent, qui parlent des mots-clés que vous avez saisis. Ces contenus-là, ensuite, vous les partagez. Soit vous faites un copier-coller directement dans le profil LinkedIn ou sur le compte Twitter, soit vous utilisez un outil de partage, un outil de programmation de contenu. Moi, j'en utilise un qui est très bien et très simple, notamment pour Twitter, LinkedIn, qui s'appelle Swello. Swello, c'est un outil en ligne. Quand vous avez du contenu, vous le mettez, vous le programmez. En général, on repère son contenu en une seule fois. On passe une bonne heure, on a une vingtaine de liens. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les parachuter d'un coup vers la communauté. Vous allez créer de la saturation. Vous allez sur Swello, vous les collez les uns après les autres, vous les publiez une fois par jour, une fois par semaine. L'important, c'est la régularité. Pas la fréquence, c'est la régularité. Il faut publier toujours à étape régulière parce que derrière les algorithmes, aussi bien les algorithmes de LinkedIn que de Twitter, vont mettre en avant cette régularité, vont lui donner une prime. Vous avez une vraie prime à la régularité. Publier, par exemple, pour le LinkedIn après 20h le soir ou alors avant 8h le matin, éviter le samedi et privilégier le dimanche après-midi, ça c'est pour LinkedIn. Sur Twitter, à partir de 17-18h à 12h, vous aurez la meilleure audience possible.
D'accord. Alors ça c'est de la partie curation. Maintenant on arrive à la partie création de contenu original.
Ah, alors création alors, de
contenu. Est-ce qu'il faut un blog ou il suffit d'avoir un profil LinkedIn en poussant sur la partie blog, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu conseilles?
Alors j'ai tendance à dire ceinture et bretelles, mon capitaine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri que demain matin, LinkedIn, si vous hébergez votre, si vous hébergez votre contenu sur LinkedIn, si vous mettez des articles sur LinkedIn, le problème c'est qu'un jour LinkedIn décide de. Il reste propriétaire de ce contenu sur le plan des data. Donc si demain matin votre compte se ferme, vous le perdez, ou alors LinkedIn décide d'arrêter. Les contenus de type article,
au champ,
voilà, ben on va se retrouver avec le contenu n'est plus chez vous. Donc, vous créez du texte, quand vous créez du texte, vous le produisez sur LinkedIn dans la partie article, ou alors dans un blog de type Tumblr, vous utilisez un Tumblr qui marche très bien également, moi j'en ai utilisé un, et c'est très utile, très simple, et ça fonctionne avec un simple téléphone mobile. Et ensuite, vous pouvez avoir les deux. On peut avoir, à mon sens, des articles de façon synthétique sur LinkedIn et de façon un peu plus fouillée et recherchée sur un blog. Pourquoi ? Parce que sur un média social, ce qui est en train de devenir LinkedIn d'ailleurs, trois idées, trois paragraphes, ça suffit largement. Au-delà, vous perdez vos lecteurs. Vous pouvez enrichir en mettant un lien, en disant plus d'informations, l'article plus détaillé et le pointer vers votre blog Tumblr qui ne nécessite aucune maintenance et aucune compétence technique à l'instar d'un WordPress qui nécessite un minimum de compétences.
De sécurité au minimum parce que c'est certes les plus utilisés mais c'est les plus piratés.
Tout à fait, voilà.
Ok, alors ça c'était la troisième étape. Est-ce qu'il y a une quatrième étape?
Oui, alors il y a une quatrième étape et là malheureusement on n'est pas tous égaux. Elle est un peu incluse dans la troisième étape, c'est la qualité de contenu. Il va falloir savoir écrire. Savoir écrire pour le web. Tout le monde n'a pas des vrais dons littéraires ou de vraies qualités littéraires. Alors sur trois paragraphes, trois idées, ça devrait pouvoir le faire. Déjà, vérifiez qu'il n'y a pas de faute, passez un petit correcteur orthographique, faites un copier-coller dans Word, vous voyez tout ce qui est souligné en rouge, c'est pas bon. Et sinon, si vous voulez beaucoup plus loin, eh bien faites-le relire. Il faut que ce soit entraînant, il faut captiver le lecteur. Comme quand vous lisez un article de journal, vous l'interpellez, vous faites un peu d'humour, deux, trois petites phrases.
Mettre de l'émotion, parler de soi et pas être trop corporate. En fait.
Non. Il faut vraiment essayer de prendre des exemples de notre vie pour personnaliser le sujet. Si vous parlez par exemple de performance commerciale, qu'on en a parlé, donnez des exemples de ce que vous avez vécu, des exemples de réussite. Peut-être même parfois des exemples d'échecs que vous avez réussi à retourner. N'oubliez pas que vous êtes un gagnant, vous avez formé. Alors les best failures, mais surtout les best practices. Vous êtes censé rassurer la personne qui va lire. Donc il faut qu'elle soit rassurée sur le fait que vous soyez un expert, sur le fait que vous puissiez l'accompagner et sur le fait que vous ayez un discours cohérent. Ne jamais oublier que le contact que vous allez avoir doit rendre des comptes à quelqu'un. Même un directeur général ou un PDG doit rendre des comptes à ses actionnaires. Il va falloir qu'il soit rassuré lui-même, mais qu'il ait des arguments pour rassurer les autres. Si vous travaillez avec un DSI ou avec un directeur communication ou marketing qui va vous choisir comme prestataire, il va falloir qu'il justifie ce choix. Et si vous lui donnez des arguments et des bons arguments, il va vous citer. Donc, un bon texte, une bonne qualité rédactionnelle, allez-y. Joël René, il y a quelques années, avait écrit un ouvrage qui est toujours, je pense, disponible, qui est « Comment écrire pour le web ». N'hésitez pas à le relire, ça peut toujours servir.
Alors, le dernier point, on a parlé de contenu intéressant. La grande tendance actuellement, c'est l'infotainment. Tu as parlé tout à l'heure de donner des exemples de la vie. Par exemple, il y a Stan Leloup, hein, de Marketing Mania, qui a basé une grande partie de son succès sur des analyses, par exemple, du loup de Wall Street ou de films comme ça. Il y a aussi des consultants comme Tara Hunt aux États-Unis qui utilisent beaucoup des extraits de films, des mini-génériques, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je crois que dans le poste que tu as occupé il y a quelques temps, tu avais mis aussi beaucoup d'infotainment, d'informations, de vidéos. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme avis là-dessus?
Alors oui, effectivement, Facebook pousse... Je prends l'exemple de Facebook. Vous pouvez créer une page Facebook professionnelle. C'est l'intérêt, c'est surtout que vous puissiez avoir un média qui est monétisable très facilement. Vous pouvez, en mettant très peu d'argent, avoir un vrai impact avec une vraie définition de la cible. Mais Facebook mettait très en avant la vidéo. La vidéo est devenue un média qui est devenu quasiment indispensable sur des plateformes comme Facebook. Actuellement,
maintenant sur LinkedIn, puisqu'on peut mettre des vidéos de 10 minutes max.
Tout à fait. Maintenant sur LinkedIn, c'est également le cas. Alors les gens qui commencent à aborder LinkedIn, on voit arriver sur LinkedIn la même mécanique que sur Facebook ou Twitter il y a quelques années. On commence à mettre des statuts, certains plus évolués commencent à mettre des articles et des infographies, d'autres commencent à mettre des mini-vidéos. Attaquer tout de suite par le haut du panier, articles et vidéos. Alors, ce n'est pas forcément facile, mais vous pouvez effectivement récupérer des vidéos sur certains sites. Vous pouvez mettre du GIF animé. Le GIF animé appuie toujours. Partez du principe que vous faites en fait une espèce de présentation, un PowerPoint. Je n'aime pas le terme, mais c'est le cas. Le plus engageant et le plus impactant possible. Donc oui, l'infotainment est importante. J'ai encore regardé ce matin une présentation dans laquelle on voyait... La personne qui faisait la présentation nous a montré une image avec des centaines de personnes qui avaient toutes devant elles un écran, un smartphone allumé. Donc, on voyait les gens de dos, on voyait des tas d'écrans blancs. Et ils nous demandaient, quelle est cette scène? Qui est sur la scène? Tout était flouté sur la scène. Qui est sur la scène? Et en fait, c'était la nomination du dernier pape. Donc, il a fait une remarque très, très, très amusante qui était de dire, à mon sens, hein, bien sûr, je ne vous demande pas de partager mon humour, mais qui était de dire, il faut avoir la foi dans le digital, mais les gens qui ont la foi dans le digital, puisqu'ils utilisent le digital pour filmer cet événement qui, pour eux, était extraordinaire. Actuellement, il faut vraiment, en mettant cette petite image, il a réussi à appuyer un argument très fort. Si vous n'êtes pas dans le digital et si vous n'êtes pas impliqué dans le digital, vous êtes vraiment très loin du monde réel. Parce que même ces gens-là qui ne sont pas a priori dans le digital, mais qui sont plus dans la foi, dans la relation avec une religion spécifique, eh bien, ils utilisent le digital. Le digital est partout maintenant. Donc, on ne peut pas ne pas utiliser des médias ou des supports digitaux quand on fait de la communication. Des vidéos, l'un des outils les plus utilisés, c'est actuellement le site Giphy. Twitter propose des GIFs animés. On ne peut plus mettre un tweet avec... sans un GIF animé, à mon sens, on peut le mettre sans GIF animé si on a une belle infographie ou si on a une vidéo. Mais mettre un GIF animé va appuyer le contenu et va le rendre plus riche et va lui donner une teinte.
Oui, et puis de toute façon, l'être humain, naturellement, est conditionné pour voir les choses en mouvement. On est conditionné pour ça. Donc forcément, entre une image statique et une image qui bouge, l'œil sera automatiquement et nativement parce qu'on est conçu comme ça.
Et oui, bah on est des chasseurs, on est devenus des cueilleurs, mais on est des chasseurs à l'origine et c'est vrai qu'on voit passer les éléments loin. Donc ça, c'est une évidence. Et surtout, une fois que vous avez bien consolidé ça, gardez vraiment cet aspect, gardez cette ligne éditoriale métier. Et alors, n'hésitez pas aussi, il y a une chose que je dis souvent pour les consultants, il y en a qui se posent la question de savoir s'ils doivent accepter en contact une demande d'un tel ou une demande d'un tel. LinkedIn vous limite à 30 000 contacts sur un compte. Si cette limitation existe, c'est parce qu'elle peut être atteinte et qu'il n'y a pas de frein à ce qu'elle soit atteinte. Comme LinkedIn devient un média social, n'hésitez pas à courir à la taille, à courir après le contact, puisque derrière chaque contact, vous aurez quelqu'un qui sera un lecteur, un utilisateur des médias que vous allez produire et qui va les partager. Et ça va démultiplier votre influence et augmenter le réseau qui va être au courant de l'expertise dont vous faites preuve. Donc, n'hésitez pas. Il ne faut pas avoir de pudeur. Quelqu'un vous demande en contact sur LinkedIn, vous acceptez, vous ferez le tri après.
Oui, c'est la théorie des liens faibles. Où on se dit bien que ce sont les amis de vos amis qui sont vos meilleurs clients.
Mais tout à fait, tout à fait. La théorie qui voulait qu'à une époque, on ne dépasse pas le nombre de Dunbar, c'est-à-dire 150 contacts, parce qu'on ne mettait que des contacts qu'on connaissait directement, maintenant est obsolète. Il y a des gens avec lesquels je ne suis pas en relation depuis des années, pourtant je suis toujours en contact. Toi, par exemple, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, on échange régulièrement sur Facebook, sur Twitter. Quand on se revoit, c'est comme si on s'était vu la veille.
Je te donne un exemple. Justement, avec LinkedIn, j'ai mis un gros effort pour augmenter ma communauté. Je suis passé de, on va dire, 5-7 000 contacts à 20 000 en un an et demi. Et dans mon, j'utilise un outil qui s'appelle LinkedIn Helper pour ajouter automatiquement des personnes. Et dedans, en ciblage, je suis tombé sur un de mes anciens copains de fac d'il y a 18 ans que je n'avais pas vu depuis 18 ans. Et grâce à lui, on a eu un rendez-vous. On aura peut-être une affaire qui va coûter, enfin, qui va nous rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros.
C'est exactement ça. Là, c'est le meilleur exemple. Donc, suivez cet exemple-là. Effectivement, on est vraiment dans une course à la taille. Pourquoi ? Parce que c'est un média et que les médias ne fonctionnent bien que quand ils ont une audience. Et plus l'audience est grande, plus vous avez réussi.
Donc, finalement, c'est la taille qui compte.
Malheureusement, oui.
Bon, alors si on veut en savoir plus justement sur toi, Patrick, on va sur quel site ?
Alors, moi, c'est très simple. Et accrochez-vous parce que je vous sortais quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Vous tapez barabe.tel. Donc, mon nom, barabe.tel. Et oui, le .tel, comme le .com, est un nom de domaine.
À bientôt.
À bientôt.